Second voyage missionnaire de Paul, l'Évangile porté en Europe. Après avoir séjourné quelque temps à Antioche, Paul, constamment occupé du Seigneur et de son œuvre, dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Toujours ce fidèle serviteur de Jésus eut à cœur le bien des assemblées. Il ne se contentait pas d'avoir annoncé l'Évangile et amené des âmes à Christ, mais son ardent désir et l'objet de ses prières étaient que les saints fussent instruits et fortifiés afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Barnabas était disposé à se rendre à l'invitation de Paul, mais il voulait que son neveu Jean, surnommé Marc, les accompagnât. Nous nous rappelons que Marc était parti avec les deux apôtres lors de leur premier voyage, mais que, découragé dès le début, il était retourné à Jérusalem. Il avait mis la main à la charrue et avait regardé en arrière, et Paul pensait qu'il n'était pas propre à affronter de nouveau des difficultés devant lesquelles il avait reculé une première fois. Il y eut donc un dissentiment entre les deux apôtres, et même de l'irritation, ce qui n'aurait pas dû être, car l'irritation dans le cœur est un fruit de la chair et non de l'esprit. Le résultat fut qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et partit pour l'île de Chypre, sa patrie. Barnabas, sans doute, continua à être employé dans l'œuvre du Seigneur. Marc aussi fut formé par la grâce pour le service, comme Paul nous le fait comprendre dans une de ses épîtres, de Timothée 4, verset 11. Mais l'Esprit-Saint ne nous parle plus d'eux dans l'histoire qu'il nous trace de l'établissement de l'Église.
De Timothée 4, 11, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service.
Paul, abandonné par son ancien compagnon, choisit pour aller avec lui Silas dont il avait apprécié le dévouement pour le Seigneur et qui dès lors ne le quitta plus. Ils partirent, recommandés comme la première fois à la grâce de Dieu par les frères. Cela ne nous est pas dit au sujet de Barnabas, et nous pouvons en conclure que l'assemblée d'Antioche approuvait Paul dans sa décision à l'égard de Marc. Au lieu de suivre le même chemin que dans son premier voyage avec Barnabas, et pour ne pas aller où celui-ci travaillait déjà, Paul se rendit par terre aux dernières villes qu'il avait évangélisées, c'est-à-dire à Derbe et à Lystre. Pour cela, il eut à traverser une partie de la Syrie et de la Cilicie. Partout, il rencontrait des assemblées que la grâce de Dieu avait formées. Combien le cœur de l'apôtre devait être réjoui! Il n'avait pas à prêcher devant des juifs ou des païens aveuglés, mais à fortifier par ses exhortations et ses enseignements des âmes qui connaissaient Jésus. Il pouvait déployer devant elles toutes les richesses de l'amour de Christ, le chef de l'assemblée, afin de les fonder et de les enraciner dans cet amour. Arrivé à Derbe et à Lystre, il s'adjoignit un autre compagnon de travail, Timothée, dont nous avons déjà parlé. Il avait, sans doute, été converti lors du premier passage de Paul, qu'il appelle son véritable enfant dans la foi et son enfant bien-aimé. 1 Timothée 1, verset 2, de Timothée 1, verset 2. Depuis, ce jeune chrétien avait marché fidèlement. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Rien n'est beau comme de voir de jeunes hommes, des jeunes filles, au milieu d'un monde rempli de convoitises et de péchés, être dévoué au Seigneur et avoir un bon témoignage. Puisse-t-il y avoir beaucoup de jeunes Timothées? Par la bouche d'un prophète, Timothée avait été désigné de Dieu pour l'œuvre. Le témoignage de tous l'avait reconnu, et les anciens l'avaient approuvé par l'imposition des mains. Puis Paul lui avait conféré, par l'imposition de ses mains, le don de grâce qui distinguait Timothée pour l'œuvre qu'il devait accomplir. 1 Timothée 4, verset 14.
Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains.
Mais Timothée était fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Un tel mariage n'était pas conforme à la loi juive. Pour les Juifs, ça aurait été un scandale que Paul menât Timothée avec lui pour annoncer l'Évangile. À cause donc des Juifs et dans un esprit de condescendance et de grâce, Paul assujettit Timothée à la circoncision. Paul ne regardait pas cela comme une condition de salut pour Timothée, ainsi que le pensaient ceux qui avaient voulu obliger les chrétiens à se soumettre à la loi juive, mais il ne voulait pas qu'il y eût un prétexte pour les Juifs de rejeter sa prédication. Paul, avec ses deux compagnons, continua son voyage. Comme il passait dans les villes où il y avait des assemblées chrétiennes, il remettait à celles-ci des ordonnances établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'elles fussent gardées, et qu'ainsi le lien entre toutes les assemblées fût affirmé et maintenu. En même temps, ces ordonnances étaient une barrière opposée aux chrétiens d'entre les Juifs, qui auraient voulu assujettir les gentils à la loi de Moïse. Les assemblées que visitaient les envoyés de Christ étaient ainsi affermies dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. L'Église, l'Assemblée, qui est la maison de Dieu sur la terre, s'édifiait par les travaux des ouvriers du Seigneur et l'action du Saint-Esprit. Mais Dieu allait diriger son serviteur dans un autre champ. Paul avait passé par la Phrygie et la grande province de Galatie, annonçant l'Évangile. L'Esprit Saint avait agi avec puissance parmi les Galates. Un grand nombre avait été converti et plusieurs assemblées s'étaient formées. Les chrétiens de Galatie avaient témoigné une grande affection à l'apôtre, qui s'était aussi beaucoup attaché à eux. Mais des docteurs juifs se glissèrent plus tard parmi eux et, malgré les ordonnances des apôtres, réussirent à leur persuader qu'ils devaient s'astreindre à l'observation de la loi de Moïse. En même temps, ils cherchaient à mettre en doute l'apostolat de Paul. Celui-ci dut leur écrire une lettre très sévère, parce que vouloir joindre la loi à l'Évangile, c'est renverser celui-ci. Paul et ses compagnons, partis de la Galatie, voulaient annoncer la parole dans cette partie de l'Asie mineure, appelée plus spécialement l'Asie, mais l'Esprit Saint qui les dirigeait les en empêcha. Ils désirèrent alors aller plus au nord en Bithynie, mais leur saint directeur, l'Esprit de Jésus, ne le leur permit pas non plus. Qu'ils étaient heureux de marcher ainsi sous la direction de Dieu. Mais c'est ce qui arrive toujours lorsqu'on s'attend à lui. Ils se dirigèrent donc vers la Troade, contrée située au bord de cette partie de la mer Méditerranée, appelée aujourd'hui l'archipel, et en face de la Macédoine, province au nord de la Grèce, célèbre dans l'histoire ancienne et qui appartint longtemps à l'Empire turc. Une note, on sait qu'elle fait maintenant partie de la Grèce actuelle. Là, Paul, toujours occupé de l'œuvre du Seigneur, annonça l'Évangile, et nous verrons plus tard qu'une assemblée s'y était formée, dans laquelle Paul se trouva une autre fois. Mais là aussi, les serviteurs du Seigneur apprirent pourquoi Dieu les avait dirigés de ce côté. Nous ne connaissons pas toujours d'abord les desseins de Dieu à notre égard et pourquoi il nous conduit dans une toute autre direction que celle que nous pensions devoir suivre. Et pour le cœur qui lui est soumis, tout s'éclaircit. Une nuit, Paul eut une vision, sans nul doute envoyée de Dieu. Il vit un homme macédonien qu'il reconnut pour tel à son costume et à son langage. Cet homme, se tenant devant l'apôtre, lui dit « Passe en Macédoine et aide-nous !» Paul, rempli des pensées de Dieu, et sachant qu'il avait pour mission d'évangéliser les nations, comprit immédiatement avec ses compagnons que le Seigneur les appelait à porter le nom de Jésus dans ces nouvelles contrées et que l'assemblée devait s'étendre aussi là et encore plus loin. Ils quittèrent donc la Troade, passèrent la nuit dans l'île de Samothrace, et étant partis le lendemain, ils se dirigèrent vers la ville maritime de Néapolis, où ils débarquèrent. Cette ville, qui se nomme maintenant Kavala, a un port important, mais les messagers du Seigneur ne s'y arrêtèrent pas. Ils se dirigèrent vers la ville de Philippe, où Dieu avait une œuvre merveilleuse à accomplir. Nous allons en parler, mais nous avons à remarquer d'abord un fait intéressant. C'est que, dans la Troade, un nouveau et fidèle compagnon s'était joint à Paul. C'est Luc, que Paul appelle dans une de ses épîtres le médecin bien-aimé, Colossiens 4, verset 14, qui écrivit l'évangile qui porte son nom et le merveilleux récit des actes qui nous fait connaître l'établissement de l'Église chrétienne sur la terre.
Colossiens 4, verset 14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue.
Luc demeura le dévoué compagnon d'œuvre de Paul à travers les travaux, les peines et les dangers de celui-ci. Et la dernière fois qu'il ait fait mention de lui, c'est quand Paul est en prison à Rome, abandonné de tous, et sur le point de marcher au supplice. Alors le bienheureux apôtre écrit « Luc seul est avec moi » de Timothée 4, verset 11. Heureuse place pour Luc, témoignage honorable devant le Seigneur, transmise à travers les siècles, et que Dieu n'oubliera pas.